Alors pour cette nouvelle édition des Voix de l'Alma, l'émission des libraires montalbanais, nous avons autour de la table Roselyne Léant qui nous rend visite de la Soupe aux Livres. Bonjour Roselyne.
Une nouvelle fois, bonjour à tous.
Jacques Griffaud du Scribe, bonjour Jacques.
Bonjour.
Philippe Bernadou de la librairie de Loche, bonjour.
Bonjour.
Et Maurice Beau de Beau Livre.
Toujours sur place.
Alors, l'auteur du mois nous est présenté par Philippe Bernadou, j'ai envie de dire comme d'habitude, Philippe. Et il s'agit d'un Mexicain.
C'est toujours moi qui m'y colle. Oui, il s'agit d'un Mexicain, puisque, donc, comme vous le savez, le maître d'œuvre des lettres d'automne cette année, qui ont pour thème l'éloge de l'ailleurs, c'est l'écrivain et éditeur mexicain Alberto Ruiz Sánchez. C'était donc l'occasion d'évoquer le plus illustre de ses prédécesseurs, Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990. À ce que je sais, c'est le seul écrivain mexicain à avoir eu le Nobel, mais je veux bien être démenti. Il n'est pas fréquent que la vie et l'œuvre soient autant imbriquées chez un écrivain que dans le cas de Paz. Donc, il a eu une très longue vie, 84 ans. Il est né en 1914, mort en 1998. Il a quasiment couvert le siècle. C'est la vie d'un militant de la poésie, du verbe. Un de ses livres s'appelle « Liberté sur parole », c'est un programme. Et doublé d'un militant politique. Les deux sont inséparables. Il avait de qui tenir son grand-père. Dans la bibliothèque duquel il a commencé à lire et à découvrir la littérature, son grand-père était un des précurseurs du mouvement indigéniste, c'est-à-dire de l'intérêt porté aux civilisations précolombiennes, ce qui se faisait pas beaucoup au début du XXe siècle. Et son père était avocat, il avait été le conseiller juridique à la réforme agraire d'Emilio Zapata, ce qui n'est pas rien non plus. Double influence marxiste et anarchiste. Il s'éloigne du Parti communiste en 1940 après l'assassinat de Trotsky au Mexique, bien qu'il ne soit pas trotskiste. De même qu'il a démissionné de ses fonctions diplomatiques en 68. Il avait été entre-temps ambassadeur à Paris, en Inde, il avait fait le tour du monde un peu. En 68, après le massacre des étudiants de Tlatelolco, durant les Jeux Olympiques de Mexico. Donc à la fois antifasciste, dès 37 il était au congrès de Valence en Espagne aux côtés des républicains espagnols, et anti-stalinien, on peut dire anti-castriste, anti-sandiniste, anti-tout ce qui ressemblait à du totalitarisme. Il a été pour cela, à la fin de sa vie, la cible d'une partie des intellectuels de gauche, que l'attribution du prix Nobel n'a pas dû calmer, certainement. Son importance littéraire, car il y a une œuvre immense, est due en partie à son travail d'essayiste, à la fois comme théoricien de la poésie, mais aussi sur l'art. Il a beaucoup écrit sur l'art, en particulier sur Marcel Duchamp. Et sur la civilisation mexicaine, son livre le plus fameux étant certainement « Le labyrinthe de la solitude », où il parle donc de la mexicanité, si on peut dire. Mais c'est bien sûr comme un immense poète qu'il est reconnu, de la dimension de Pablo Neruda, si on veut comparer pour à siècle égal et sur le continent latino-américain, bien sûr. Un poète qui a dégagé de toutes ses influences très contrastées, le nourri au symbolisme, l'indianité, on en a parlé, le surréalisme, puisqu'à Paris, il a été copain avec Breton. Il dégage de tout ça une écriture qui est à la fois simple et sensible. Il y a un mot en espagnol pour ça, on dit « sencilla ». Nourri de ses racines et des voyages dont on a parlé, en particulier nourri de spiritualité indienne de l'Inde. Quelques lignes. Tout se redresse pour mieux tomber. Et celui qui tomba sous la hache de son propre délire se lève. De son front blessé sourd un ultime oiseau. Il est le double de lui-même, l'adolescent qui chaque siècle revient dire quelques paroles, toujours les mêmes, la colonne transparente qui s'éteint, et scintille, et s'éteint, selon que gagne la rapide écriture du destin. Au centre de la place, la tête brisée du poète est une fontaine. Il y aura, dans le cadre de Lettres d'automne, le vendredi 19 novembre à 21h, à la projection du film En compagnie d'Octavio Paz, qui est un épisode de la série Un siècle d'écrivains. Ça sera au théâtre. L'œuvre de Paz est publiée principalement chez Gallimard. Il y a 3 tomes dans la petite collection Poésie Gallimard, 3 volumes. Et bien sûr, dans la Pléiade aussi, ces œuvres poétiques sont rassemblées.
Voilà, et l'extrait que vous avez lu est sorti
de Liberté sur parole, dont j'ai cité le titre tout à l'heure.
Le premier coup de cœur, c'est vous qui nous le présentez, Jacques Griffaut.
Oui, c'est un livre qui s'appelle Antoine et Isabelle. Alors, celles et ceux d'entre vous qui aiment les grandes sagas familiales, les épopées, réjouissez-vous, car avec Antoine et Isabelle, vous allez être comblés. De quoi s'agit-il ? Eh bien, l'auteur nous raconte l'histoire de ses grands-parents qui se sont rencontrés à Barcelone en 1925, après que leurs familles respectives aient cru trouver dans la grande ville catalane une échappatoire à la misère. Antonio, il a fui la Catalogne, et Isabelle, l'Andalousie. Ce qui nous vaut d'ailleurs des pages absolument splendides sur l'Andalousie de 1917, cette terre maudite où se nourrir était un miracle quotidien. Et aussi de 1974, parce qu'on est encore à Garrucha, un chétif village de la côte andalouse, où est née la grand-mère de l'auteur, et il dit de 1910 à 1970, rien n'avait changé. Le premier point d'eau potable était toujours à 2 kilomètres, une superbe fontaine du temps des morts, et qui crachait une eau abondante. Alors, il y a une très belle description aussi de Barcelone, d'avant-guerre, où le jeune Antonio il lit les journaux sans difficulté, avec avidité, même s'il n'a pas resté très longtemps à l'école. Ces classes où il lui faut demeurer assis pour absorber le savoir, comme un engoulevent gobe les mouches, elles ne sont pas son genre. Et très vite, il tombe amoureux d'Isabelle. Alors les amoureux n'ont pas d'autres heures que le soir équivoque, montant des venelles sans feu, etc. Antonio va s'enthousiasmer pour la jeune République espagnole, il va devoir quitter l'Espagne, il va être réfugié dans les Alpes après la déroute de 36. Ils vont devenir, Antoine et Isabelle, citoyens français. Ils sont pleins d'espoir dans une humanité nouvelle, mais ils vont payer un lourd tribut pour leur engagement puisque Antoine sera arrêté par les Allemands dans le maquis et déporté au camp de Mauthausen en 1943. Et parallèlement, et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce livre, on va suivre l'histoire d'une grande famille d'industriels lyonnais, de la soie puis de la chimie, ce sont les Gilets. Ceux qui ont donné d'ailleurs le nom à la maison Gilet, vous savez d'où il se passe beaucoup d'événements culturels à Lyon. Alors là, on nous raconte les mariages arrangés, les alliances stratégiques, l'obsession de la survie du groupe industriel et du profit, même en temps de guerre, et ce qui peut entraîner des actions d'ailleurs assez éloignées des idéaux de la résistance. L'auteur ne juge pas, il donne deux visions du monde à la même époque, et cela dans un style superbe. C'est un roman intense, où il y a donc de l'aventure, de l'amour, où la politique, et la petite histoire et la grande histoire sont là, la petite histoire étant bousculée par la grande histoire, et c'est vraiment un livre que l'on dévore. Je signale juste qu'il a eu le prix Page des libraires, c'est les libraires qui votent pour leur livre favori, et cette année, c'est celui-là qui l'a emporté dans la sélection française.
Alors ça s'appelle Antoine
et Isabelle, c'est un livre de Vincent Borel, donc c'est l'histoire vraie de ses grands-parents, c'est publié chez Sabine Vespizer, il y a 492 pages, mais c'est un pavé qu'on dévore encore une fois avec beaucoup d'impatience de lecture.
Philippe Bernadou, votre coup de cœur.
Giovanni Arpino, Le pas de l'adieu. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de cet auteur à l'occasion de la parution de Une âme perdue, il y a quelques mois. Arpino est, je le rappelle, l'auteur du roman Parfum de femme qui a donné lieu au film célèbre. Les éditions Belfond, qu'on ne connaît pas toujours aussi sagaces, continuent la résurrection de cet auteur italien. Il est mort en 1987, en publiant cet automne donc Le pas de l'adieu. Ça se passe dans une pension de Turin, une pension tenue par deux jumelles plus toutes jeunes, dont le seul pensionnaire, le seul habitant, est un vieux professeur de mathématiques, au bout du rouleau, peut-on dire. Ce professeur reçoit tous les dimanches la visite d'un ancien élève, professeur lui aussi, avec qui il joue aux échecs, et surtout à qui il a demandé de lui faire une piqûre d'air le jour de le tuer, donc, le jour où les souffrances seront trop fortes. Dans cet équilibre assez figé, débarque une nièce des deux sœurs jumelles qui, elle, est délicieusement vulgaire et effrontée, personnage très années 70, qui va, d'une part, devenir la maîtresse du jeune professeur, et ce qui est qu'une anecdote, elle va surtout révéler à chacun ses faiblesses et ses lâchetés. C'est des personnages très bien campés et il s'agit de la délicate mécanique des sentiments. Et je vous promets, c'est superbe. Giovanni Arpino, Le pas de l'adieu chez Belfond.
Jacques, à nouveau à
vous. Oui, un employé modèle de Paul Cleave, c'est traduit de l'anglais de la Nouvelle-Zélande, c'est publié chez Sonatine, et c'est un polar que j'ai trouvé tout à fait étonnant. On est en Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande, c'est pas seulement la beauté stupéfiante des paysages, mais c'est aussi un endroit qui s'appelle Christchurch, qui est connu pour ses jardins, mais aussi surtout pour sa violence. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a des tas de buildings gris espacés, des avenues grises elles aussi, comme le ciel presque tout le long de l'année. Il y a de la verdure, des parcs, mais, dit l'auteur, vous ne pouvez pas y aller le soir sans prendre un coup de couteau ou une balle, qui feront de vous un excellent engrais naturel. Bon. Le narrateur, c'est Joe Middleton. Alors, c'est un célibataire. Il est depuis 4 ans homme de ménage au commissariat central de Christchurch. 10 étages d'insatisfaction, faits de blocs de béton et de mauvais goût. Il est considéré comme un brave type, un peu retardé d'esprit, donc inoffensif. Il peut entrer dans tous les bureaux et salles de réunion avec son balai, sa serpillière. Il est au courant des enquêtes criminelles en cours. Il y en a une en particulier qui agite beaucoup les inspecteurs à ce moment-là. C'est celle concernant celui qu'on appelle le boucher de Christchurch. C'est un tueur en série qui est accusé d'avoir assassiné 7 femmes dans des conditions atroces. Mais Joe, lui, il sait qu'une des 7 femmes n'a pas été tuée par le boucher de Christchurch. Il a une bonne raison d'en être certain, de ça. C'est que c'est lui, le boucher de Christchurch. Alors très vite, il nous confie. Je ne suis pas comme ces bâtards de pervers qui se mettent à buter des femmes par besoin sexuel. Moi, je le fais pour m'amuser. Et ça fait une grosse différence. Plus loin, il ajoute. Je ne suis qu'un type normal, un Joe moyen, avec un hobby. Je suis pas un psychopathe. Je tue pour moi, c'est aussi simple que ça. Au commissariat, il y a Sally aussi, qui n'enlève jamais le petit crucifix qu'elle pend à son cou, et elle éprouve un sentiment qui va croissant pour Joe. Elle va s'efforcer de mieux le connaître, tout en restant discrète. Alors Joe, quant à lui, eh bien, il va mener sa propre enquête, parce qu'il voudrait absolument démasquer celui qui a tenté de le plagier. Alors c'est un polar, vous voyez, tout à fait étonnant, puisque on revisite intégralement le thème du tueur en série.
Donc c'est un employé modèle de...
Alors c'est Paul Cleave qui est un Nouveau-Zélandais, oui, ben c'est ça, oui, parce que c'est Nouvelle-Zélande, donc je crois qu'on les appelle les Nouveaux-Zélandais, mais je ne sais pas s'il est très nouveau. Ouais. Enfin, il est...
La référence de cet ouvrage et de tous ceux qui sont présentés dans cette émission se retrouve bien évidemment sur le site internet librairiemontauban.fr, c'est le site des libraires de l'ALMA, librairie étant au pluriel. Un autre coup de cœur s'il vous plaît Jacques.
Oui, alors cette fois-ci c'est un des auteurs que j'aime beaucoup puisqu'on la suit depuis pratiquement son premier roman que j'avais trouvé tout à fait formidable qui s'appelait Le Fils des Vivants. C'est Claudie Gallet pour L'Amour est une île. Alors cette fois-ci on est à Avignon en 2003 et le célèbre festival est paralysé par la grève des intermittents. Il y a une jeune fille qui s'appelle Marie qui a traversé toute la France pour la mémoire de son frère, pour entendre les mots de son frère. Elle va rencontrer Odon, directeur du théâtre du Chien Fou, qui habite sur une péniche là, de l'autre côté du Rhône. Il joue des textes assez confidentiels et cette année, il a monté la pièce du frère de Marie. Odon a rencontré il y a 5 ans une femme, une enfant du pays avec laquelle il a vécu une passion intense qui s'appelle Mathilde et qui est partie au bout d'un an, elle, convaincue que c'était incompatible d'exercer son métier de comédienne et d'aimer en même temps. Elle revient avec son nom d'artiste, elle est la Jogar, une artiste célèbre. Odon et Mathilde vont se retrouver, vont s'effleurer. L'amour est une île. Quand on part, on ne revient pas. C'est du moins ce que pense Mathilde, car lui, Odon, qui est resté donc sur sa péniche, il serait tout à fait prêt à redémarrer une belle histoire avec Mathilde. Alors c'est l'arrivée donc de Marie, cette jeune fille, cette rebelle, cette étrangère qui n'appartient à elle ni au lieu ni au milieu et qui est le point de départ du roman. Cette Marie fragile qui est écorchée depuis la mort de son frère, avec des cicatrices qui n'en finissent pas de se refermer, et qui tente de comprendre ce qui est arrivé au texte de son frère, pourquoi Odon, auquel il l'avait envoyé, ne lui a pas répondu, ou il a répondu trop tard. Outre Marie, Odon et Mathilde, il y a de nombreux personnages secondaires qui sont à mon avis très réussis, comme Isabelle qui accueille chez elle Marie et d'autres gens de passage. Isabelle, elle garde la mémoire du Festival d'Avignon, du temps des Villard, des Gérard Philippe et d'Anne Philippe et de tant d'autres. Et puis il y a bien sûr comme personnage aussi le festival qui se déroule de façon chaotique dans cette ville close, ensoleillée, parce qu'il y a la grève des intermittents. Et c'est lui, ce n'est pas une toile de fond, mais c'est vraiment un personnage, comme je disais, car c'est lui qui établit le lien entre tous les personnages, qui crée du lien entre eux. Claudie Gallet, elle pose dans ce livre, entre autres, la question de l'appartenance au texte. Est-ce que le texte appartient à celui qui l'a écrit, ou à celle et celui qui lui donne du souffle, à ceux qui viennent l'entendre, au lecteur, elle tranche pas. Alors moi je suis assez bluffé par Claudie Gallet, parce qu'après le succès des Déferlantes, elle se confirme comme un écrivain qui se renouvelle pratiquement à chaque livre. Elle approfondit des thèmes qui lui sont chers, l'amour bien sûr, comme seule vérité, une fois tombé le masque de l'imaginaire, qui n'est souvent qu'illusion, l'altérité, la fragilité des êtres, le lien qui les unit. Elle sait faire évoluer ses personnages dans des décors complètement différents, et je suis persuadé, mais je le sais déjà, qu'avec ce livre-là, de nouveau, eh bien, elle a conquis un public qui maintenant lui est très fidèle.
L'amour est une île. On arrive maintenant à la mi-temps de cette émission, et avant de passer aux actualités des libraires de Montauban, Philippe Bernadou, vous nous livrez une lecture comme à votre habitude.
Une lecture d'un auteur qui s'appelle Didier Blonde, un livre qui a pour titre Carnet d'adresses, dans lequel il a parcouru Paris à la recherche des adresses des personnages de fiction. Depuis le jour où il s'est aperçu qu'il habitait dans la même rue qu'Arsène Lupin, ça l'a traumatisé. Il fait donc le tour de Paris pour relever et donc chaque adresse donne lieu à une anecdote. Nous allons aujourd'hui aller 10 rue Christine. L'adresse figure dans plusieurs annuaires sans erreur possible à cette date, décembre 1913. Il n'y en avait qu'une dans la rue, la brasserie du Caveau. Aujourd'hui encore, on dirait une cave voûtée, fenêtre étroite et entrée basse en plein cintre qui fait baisser instinctivement la tête. J'aurais aimé pouvoir retrouver les choses à leur place, ne rien demander à personne et m'asseoir à mon tour à l'une de ces tables pour boire un verre. Qu'est-ce qu'on y servait ? Absinthe ou du bonnet ? Voici, monsieur. Guillaume Apollinaire venait souvent ici avec des amis, André Salmon, André Billy, Jacques Dissor, où il a écrit à l'improviste sur un coin de table l'un de ses plus beaux poèmes, un instantané, qui n'a l'air de rien. Lundi, rue Christine. Il n'a fait que noter, enregistrer une écriture de procès-verbal. Le sol est semé de sciures, des piles de soucoupes de fleurs en calendrier, le chat noir traverse la brasserie, des choses vues ou entendues. Je partirai à 20h27. Cher monsieur, vous êtes un mec à la mie de pain. Poésie brute de la vie ordinaire qui tourne comme un kaléidoscope. Un poème conversation devenu manifeste de l'art nouveau, tout est dans le collage. Louise a oublié sa fourrure, moi je n'ai pas de fourrure et je n'ai pas froid. C'est l'hiver, la nuit tombe vite, la salle est déjà éclairée mais reste trouée d'ombre malgré les reflets démultipliés d'une lumière d'aquarium. 3 becs de gaz allumés, 6 glaces et 6 dévisages toujours. Quelques clients s'attardent, aux tables voisines on joue à la manie ou aux zanzis. Les conversations se mêlent en propos confus qui s'interrompent brusquement. Au fond, deux individus en casquette préparent un mauvais coup. La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer. Il suffirait qu'un type maintienne la porte cochère pendant que l'autre monterait. Dans un coin, une femme au visage grave devant un homme, de dos. « Écoute, Jacques, c'est très sérieux ce que je vais te dire. » Derrière le comptoir, l'avait à la main la tenancière du lieu, la patronne et poitrinaire. Elle s'appelait, dit le bottin, A ou Dou. A comme Antoinette, Augustine, Adèle. Au même numéro, une porte conduisait à l'hôtel situé dans les étages, l'hôtel du Rhône. Était-ce son mari qui en était le propriétaire? Ce jour-là eut lieu un fait divers domestique qui a chamboulé les habitudes de la maison et alimenté les conversations pendant des semaines. Alors, c'est vrai, la serveuse rousse a été enlevée par un libraire? Elle avait des cheveux de flamme et la figure semée de taches de sang, selon Jacques Dissor qui s'en souvient encore, des années plus tard, quand il raconte ses souvenirs. Une belle fille, la beauté du quartier, qui fait tourner les têtes. Pourquoi avec le libraire? Que sont-ils devenus? C'est le début d'un feuilleton populaire.
Didier Blonde.
Carnet d'adresse chez Gallimard.
L'actualité des libraires de Montauban, ça commence par une histoire d'épitaphe. On pourrait peut-être écrire sur la tombe de Maurice Beau un jour, même enterré, toujours sur place. Non, ça
mais,
marche pas.
Mais j'ai déjà fait mon épitaphe. Ah. J'aurai le plaisir, donc, à votre invite, Rémi, de la livrer à nos auditeurs. Oui, en effet, pour mieux vivre, rire et lire, les libraires de l'Alma vous proposent de participer mercredi 17 novembre de 18h30 à 20h30 à un atelier de composition d'épitaphe animé par Evelyne Folmorel, et ce, à la librairie Siloué. La séance se prolongera autour d'un repas convivial. Les épitaphes seront ensuite proposées en lecture au cours du bal lecture de clôture des lettres d'automne le dimanche 5 décembre après-midi. Alors, une inscription préalable est gratuite et souhaitable chez votre libraire Montalbanais, le libraire de votre choix. Tous les libraires participent en allemand et organisent, sont co-organisateurs de cet atelier. Atelier ouvert à tous, toutefois déconseillé aux personnes sans humour. Hein. Alors dès à présent, vous pouvez nous envoyer à notre adresse librairiemontauban.fr vos épitaphes personnelles ou préférées, et dans un premier temps, elles seront publiées en ligne sur le site des libraires. Et je ne résiste pas, bien sûr, au plaisir de vous en livrer quelques-unes. Voici les dernières arrivées. Donc une épitaphe de François Verdier qui met « Nous avons semé tes cendres dans un champ de blé, ainsi tu seras toujours fauché, toi qui devais tant à tous et qui as toujours tout donné. » C'est mignon, ça, quand même. Ensuite, vous avez, bien, je pense, d'un Montalbanais. « Ici repose Jean-François Richard, exempté d'armée, mais bon pour le sapin. » Ou encore, Lionel Poinsard, qui nous a envoyé... Alors lui, il a été très prolixe sur ce thème-là. Et j'en prends une au hasard. « Épitaphe d'un gardien de phare. Merci de m'avoir incinéré. Je voulais descendre. » Je pourrais vous en livrer ainsi d'autres, peut-être plus classiques, d'un auteur, celle de Roland Bacry, « Ici j'y suis, ici j'y reste », ou même celle de Cocteau, « Mes amis, faites semblant de pleurer, car je fais semblant de mourir ». Et il y a aussi André Breton, alors là il faut un peu plus de recherche, puisque « Je cherche l'or du temps ». Bon. Et bien sûr celle d'Alphonse Allais, « Si j'y allais, sans retour ». Ou encore une autre, bon là c'est juste des initiales, JL, qui nous envoie « Attention, vers éclat fréquent ». Donc peut-être à lire. Je terminerai, oh, bien sûr il y a celle très connue, hein, mais qui est, donc de Henri Salvador, « Appelez-moi désormais par mes initiales ». Je trouve que c'est... Et puis les libraires ont su porter un regard sur eux-mêmes. Là, j'ai la dédicace de Hugues Dedy, hein, le libraire du comptoir de Sildavi. « Après une vie en noir, il se met au vert ». Et puis, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous l'avais promis, voici la mienne. « Maurice vécut des livres, pour les livres, sous les livres. Enfin délivré, ici Gibault ». Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur cet exercice, certes d'humour, mais aussi un exercice que nous proposera Yveline Folle, qui est un véritable exercice d'écriture qui peut être beaucoup plus profond qu'il ne semblerait, eh bien, c'est mercredi 17 novembre à 18h30 jusqu'à 20h30 à la librairie Siloué, et prévoyez que nous terminerons la soirée ensemble autour d'un repas convivial.
Voilà, juste deux jours avant, donc le 15, Philippe Bernadou.
Non, pardon, le 17 aussi.
Ah pardon,
d'accord. C'est le même jour, mais un peu plus tôt, à partir de 17h30, la lecture mensuelle de la Compagnie des Écrivains. Éric Fabre-Maigne présente Élie Francis Jam, le doux poète des ânes et des angélus, à la Cavalière de la librairie de Loche.
Ah, au Scribe, le même jour.
Eh bien, toujours le 17, à 19h, nous recevrons Florentine Ray, pour un livre qu'elle a publié, qui s'appelle « Mon œil » chez l'éditeur des Ronds dans l'eau. Pourquoi nous la recevons-nous ? Parce que ce livre « Mon œil » a reçu le prix Olympe de Gouges 2010. Alors je rappelle que le prix Olympe de Gouges est décerné chaque année par la ville de Montauban pour un projet qui rappelle et prolonge l'action d'Olympe de Gouges en faveur du droit des femmes. Là, c'est l'histoire d'une jeune trentenaire qui découvre un manuel d'éducation domestique à l'usage des jeunes femmes, des jeunes filles, pardon, qui date de 1960 et qui lui fait dresser les cheveux sur la tête. Alors, elle est perplexe et révoltée, elle va décider de partir en quête d'informations sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Donc, ça dénonce le rôle de la société de consommation dans l'aliénation du droit des femmes. Alors, ce qui est amusant, c'est que sont passées au crible des personnalités telles que Éric Zemmour, mais aussi De Gaulle, Napoléon, Olympe de Gouges, Flora Tristan et bien d'autres. C'est parfait pour rire et pour réfléchir. Donc, elle signe ce roman graphique et elle le commente le 17 à 19h au Scribe.
Il y a une expo dans votre librairie.
Dans le cadre des Lettres d'automne, oui, une expo qui s'appelle « 101 aventures de la lecture » que nous partageons avec la médiathèque de la Française et le centre hospitalier de Montauban. Donc cette expo en trois endroits, qui est une expo de citations magnifiquement présentées, publiées par les éditions Artes de Mexico. Et je passe la parole à Jacques.
Oui, parce que au Scribe aussi, à l'occasion des Lettres d'automne, nous aurons une exposition qui s'appellera « Autour des éditions Artes de Mexico ». Donc, Il y aura une rencontre à cette occasion-là, le samedi 4 décembre à 14h30. Mais l'exposition elle-même sera installée, je pense, le 16 novembre et elle durera jusqu'à la fin de l'année.
Voilà, comme la nôtre.
Le 28 novembre, Roselyne Léant, c'est le dimanche des bouquinistes que vous organisez chaque année.
Voilà, donc cette année c'est la 18e édition. Donc le dimanche des bouquinistes se déroule pendant la journée du 28 novembre à Eurythmie. Elle s'inscrit pendant la manifestation des lettres d'automne. Donc c'est ouvert à tous les amoureux du livre qui pourront déambuler parmi les stands d'une vingtaine de bouquinistes où un large choix de livres vous est proposé. Vous avez également un stand collectif qui propose les ouvrages des auteurs fêtés pendant les 20 ans des lettres d'automne. À 11h, il y a une rencontre entre Michel Piquemal, un auteur jeunesse, inspiré par les civilisations indiennes, et Santiago Ruiz Sanchez, un anthropologue mexicain.
Le fils de Roberto Ruiz Sanchez.
D'Alberto.
D'Alberto.
Voilà. Donc, tout cela autour de la culture indienne. À 16h, vous aurez une lecture proposée par Isabelle Castelli, une lecture de texte d'Antonin Artaud qui a vécu et écrit sur le Mexique. Vous avez également des stands à découvrir, en particulier cette année un stand d'enluminure qui fera des démonstrations de dorure à la feuille. Également des éditions Anima Mundi Cleueta, ce sont des éditions qui proposent des gravures originales. Également, bien sûr, des relieurs et des éditeurs.
Voilà, c'est le 28 voilà. novembre à Eurythmie, de 9h à 18h, l'entrée est libre.
L'entrée est gratuite, comme toujours.
Le 5 décembre, on revient au cœur de la ville, place nationale, on va pour casser la piñata.
Pour le dernier jour des lettres d'automne, à 12h, on a rendez-vous pour casser la piñata. La piñata, c'est une espèce d'outre en argile qu'on casse, suspendue en hauteur bien sûr, qu'on casse les yeux fermés. Et il y aura à l'intérieur des lots à gagner, des livres offerts par vos libraires préférés, ceux de l'Alma.
Voilà, on arrive au bout de cette édition des Voix de l'Alma. Je vous propose de faire un tour de table pour nous repréciser les ouvrages que vous nous avez présentés. Et on commence par vous, Philippe Bernado, parce qu'au moins vous êtes prêts.
L'auteur du jour, c'était Octavio Paz, dans en particulier Liberté sur parole en poésie Gallimard et d'autres textes chez Gallimard. Le coup de cœur, Giovanni Arpino, Le pas de l'adieu chez Belfond. Et la lecture, Didier Blonde, Carnet d'adresse, collection L'un et l'autre chez Gallimard.
Alors, le grand roman qui vous emporte en Espagne jusqu'à nos jours, c'est Antoine et Isabelle de Vincent Borel, publié chez Sabine Vespizer. Le polar, c'est un employé modèle, Paul Cleave, le tueur en série que l'on connaît depuis le début. Et un autre roman, le dernier roman de Claudie Gallet, c'est L'amour est une île de Claudie Gallet, publié chez Actes Sud.
Merci messieurs, dames. On vous donne rendez-vous à dans un mois.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.